Au risque de parler brutalement, je voudrais être très clair. Ce que je fais n'a rien à voir avec le yoga. Ce que je fais, les yeux grands ouverts, est fondé sur des réalités anatomiques, sur le respect du corps tel qu'il est construit. Se mettre sur la tête ne respecte pas les vertèbres cervicales. Bloquer sa respiration déforme la cage thoracique. Se mettre en lotus aggrave les problèmes lombaires.
Le but du yoga étant de vous abstraire de votre corps, de le dépasser pour trouver le bonheur et la quiétude. Il ne peut être atteint qu'à travers la répression des instincts, le refus de la mémoire musculaire. Ce but, attaché à une très longue tradition orientale, me semble en contradiction complète avec les recherches de l'être entier qui caractérisent la vie en Occident.
En faisant monter l'énergie vers la tête, le yoga et d'autres pratiques d'inspiration orientale cherchent à élever le praticien au-dessus des soucis quotidiens, charnels. Un thérapeute corporel de la côte ouest américaine m'a raconté qu'il soignait régulièrement un adepte très avancé de la méditation transcendantale qui maîtrisait si bien son corps qu'il arrivait à l'éviter.
C'est une très grande actrice de cinéma et de théâtre. Mais aussi, mais surtout, c'est une star. Elle avait pris le dernier rendez-vous de la soirée. Une star brille la nuit. Pendant 20 minutes, une demi-heure, je ne sais, je n'ai pas senti passer le temps. Elle m'a parlé d'elle, de son angoisse de la cinquantaine approchante, des accidents qui, en tournée, lui avaient fait frôler la mort, de sa dépendance des somnifères, de sa fille qu'elle n'aimait pas, et qui ne l'aimait pas, de ses innombrables traitements et opérations pour entretenir et réparer son corps. À la fin de son récit, nous étions émus toutes les deux.
Mais s'il savait s'élever, il ne savait pas très bien descendre. Et c'est son coccyx endolori qu'il venait faire soigner chez son thérapeute, lui des basses réalités de la vie.
L'enfant, c'est lui que je vois dans chacun de mes patients et que parfois j'arrive à toucher. Je mets la main sur leur corps d'avant ses premières blessures, dont la cicatrice fragile et poreuse agira comme un filtre à travers lequel chaque nouvelle expérience doit passer pour sortir teintée, gauchie, alourdie, infectée de minuscules particules du passé.
Odile est une jeune femme hautaine, on la traiterait facilement de snob. Elle est du genre hippie revu et corrigé par un styliste, un coiffeur et un bottier sophistiqué, mais qui ne sont pas arrivés à cacher son dos voûté, une bosse naissante dont elle ne m'a jamais parlé. Sa raison d'être venue, je cherche à clarifier mon rapport avec mon être profond.
Je continue. Ce que je fais ne peut qu'être douloureux. Je lui demande comment elle se sent. Vous adressez-vous à mon moi conscient ou mon moi inconscient ? Répond-elle, le ton aussi glacé que sa peau.
Si une personne demande une thérapie corporelle pour fuir la parole, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment se guérir, même physiquement. Si elle ne veut surtout pas entendre de sa propre bouche la raison outre-mécanique de sa déformation, s'il n'y a aucun éclaircissement, aucune conscience du comment et du pourquoi de ce qui lui est arrivé, alors, quelque temps après ce qui semble être sa guérison, elle se mettra à fabriquer de nouveaux symptômes. Puisque sa tête est restée au même point, son corps y retournera.
La main thérapeutique ne repousse jamais. Elle est toujours accueillante, hospitalière, maternelle, même si elle appartient à un homme. C'est la personne derrière la main dont il faut se méfier.
Or part de l'idée que la souffrance de l'enfant qui naît lui fait croire qu'il va mourir plutôt que vivre. L'être qui quitte sa vie paradisiaque de fœtus pour traverser avec mille peines et paniques la porte trop étroite du col de l'utérus, qui est projeté dans la lumière aveuglante et dans l'air puant et empoisonné, deviendra un adulte défaitiste. Il croira que la vie l'écrase, qu'il n'arrivera jamais à faire un effort suffisant pour s'en sortir.
Mais à quoi bon revivre ces traumatismes originels, libérer ces répressions archaïques? Se guérit-on de sa naissance, de sa petite enfance? Ainsi, les végétothérapeutes travaillent en clinique et en séances individuelles avec des femmes enceintes, leur faisant connaître leurs propres blocages et les préparant à l'accouchement.
Il ne pourra imaginer qu'il puisse réussir sinon au prix d'une terrible souffrance. Il n'osera pas respirer par peur que ses poumons ne soient écorchés. Il n'osera pas avancer dans la vie par peur de tomber dans les mains ennemies plus fortes que lui. Des sensations qui accompagnaient sa naissance et qu'il a enregistrées dans sa mémoire musculaire et nerveuse, il fera des idées négatives qu'il essaiera toute sa vie de confirmer.
Un exercice qui semble anodin s'attaque au niveau oral. Le patient, couché à plat dos, garde la bouche grande ouverte pendant 15 à 20 minutes. Que peut faire un tel exercice, sinon assécher la bouche, donner soif pour ceux qui avaient pris l'habitude de garder les lèvres pincées, le menton rigide? Il peut provoquer des vomissements, des cris ou déclencher un mouvement automatique de succion.
Je crains que les thérapies dites émotionnelles soient particulièrement aptes à attirer un genre de thérapeute vampire qui a davantage besoin de ses patients que ses patients de lui. La recherche d'effets spectaculaires mène tout droit vers le cabotinage, vers le travestissement si le rôle de thérapeute n'est pas tenu par une personne consciente de la pleine portée de son travail et de sa propre responsabilité.
Biofeedback veut dire rétroaction biologique. Mais, pour comprendre ce que veut dire rétroaction biologique et comment elle peut vous servir, il faudrait que je décrive quelques concepts et faits concrets qui en sont la base. En ce moment même, votre corps est en train d'effectuer des milliers d'opérations biologiques. Votre cœur bat, votre sang circule, votre peau s'ajuste à la température ambiante. Vos muscles fournissent un énorme effort, rien que pour vous tenir dans la position où vous êtes, même si vous ne bougez pas.
Pour recevoir des informations sur les actions involontaires que vous êtes en train d'effectuer à l'intérieur de vous-même, il faudrait que ces informations reviennent à vous depuis l'extérieur, qu'il y ait une rétroaction, qu'elle soit perceptible par l'un ou l'autre de vos cinq sens et qu'elle puisse être enregistrée dans votre cerveau.
En position debout, pieds nus, vous est-il possible de réunir les deux pieds, les bords internes se touchant? Peu de gens semblent savoir si des bords internes de leurs pieds se touchent ou non. Les torsions et rétractations de leur corps ne le leur permettent pas. Mais ils ne le savent pas, l'organisation de leur système nerveux est telle qu'ils ne se mettent jamais en position de le savoir.
Ils croient avoir les pieds joints quand un est de travers, les orteils louchant vers l'extérieur, ou bien quand les pieds sont écartés, ou seulement quand les talons sont joints. pourquoi cette position, les pieds joints, est-elle si difficile? C'est la seule position qui peut vous renseigner sur votre contact réel avec le sol.
Tous les orteils dans cette position devraient pouvoir s'allonger et s'appuyer par terre, et non seulement le coussinet, entouré la plupart du temps de peau morte, parce que seul à recevoir le poids du corps, le bord externe, le talon, devrait reposer sur le sol. Seul le voûte interne du pied devrait être souplement, sinueusement relevé, mais la tête du premier métatarsien doit, elle, revenir s'appuyer sur le sol.
Pour prendre conscience de l'action de votre cœur en ce moment, il faudrait que vous puissiez l'écouter au stéthoscope ou lire ses battements sur électrocardiogramme. Pour prendre conscience de l'action de la fibre musculaire, il faudrait que des électrodes soient fixées sur vous et que vous puissiez lire votre énergie dans les courbes informatiques.
La première fois que vous essaierez de faire ce mouvement, très probablement vous abandonnerez aussitôt parce que les chevilles s'écrasent l'une contre l'autre et vous font mal, ou parce que vos genoux, tournés en dedans, vous gênent comme un paquet entre les jambes, ou bien parce que les reins se creusent et que vous perdez l'équilibre.
L'art de Feldenkrais consiste à emprunter le plus court chemin vers la réussite du mouvement, chemin trouvé en contournant les obstacles qui sont les raideurs profondes du corps. À la fin de la séance, ses élèves éprouvent une sorte de jubilation. Ils se sentent plus souples, plus vivants, plus intelligents. Ils savent faire de nombreux mouvements dont, une heure auparavant, ils étaient incapables.
Je pense à ceux, tellement nombreux, qui me disent qu'ils voudraient être comme avant. Mais leur comme avant est une illusion, ils n'allaient pas si bien que cela. Ils avaient moins mal, ils étaient moins visiblement déformés, peut-être, mais ils n'allaient pas bien.
Mais les élèves de Feldenkrais réussissent ces mouvements parce qu'il leur a appris à organiser leurs raideurs, non pas à les dissoudre, à compenser leurs raccourcissements et non à les allonger. Pourquoi en est-il aussi? Toujours la même raison, un aveuglement devant cette évidence anatomique. Ce sont les muscles postérieurs qui sont les coupables, ceux qui vous empêchent de vous mouvoir avec souplesse parce qu'ils sont toujours trop forts, trop courts, trop raides.
Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.
Top down is progressing.
Assis sur le sol, jambes à demi fléchies, pouvez-vous sentir vos ischions? Vous pouvez vous asseoir dans les paumes des mains pour repérer ces os du bassin, sur lesquels vous devriez être posé lorsque vous êtes assis. Maintenant, essayez de repérer la fontanelle postérieure. En haut du crâne, vers l'arrière, vous trouverez une minuscule dépression sous le cuir chevelu. Tâtez, triturez un peu, tirez une mèche de cheveux qui s'implante à cet endroit.
Comment ces élèves accèdent-ils donc à leur nouvelle prouesse? Voici un exemple. Le but du mouvement proposé est tout simplement de se pencher en avant et de poser ses mains à plat par terre. Beaucoup de personnes ne peuvent le faire, non pas parce qu'ils ont les jambes trop longues, les bras trop courts, le ventre trop gros, ou parce que leurs messages cérébraux se brouillent en route, mais simplement parce que leur musculature postérieure, nouée, raccourcie, leur vole la longueur nécessaire.
Mais pour que l'élève réussisse le mouvement, il lui fait effectuer une rotation de la hanche, du genou et finalement du pied. C'est-à-dire qu'il le dirige dans le mouvement compensatoire que nous faisons tous, sans en être conscient, quand nous voulons à tout prix toucher par terre. Voilà donc l'élève, les paumes par terre, ravi de son succès, mais pour elle moins inélégant et n'ayant rien changé à la structure imparfaite de son corps et n'ayant rien compris à la raison de l'imperfection de cette structure.
Entre les ischions et la fontanelle, essayez de vous ériger vers le ciel. Posez les mains sur les cuisses, paumes en l'air. Puis allongez les jambes jointes et poussez les talons le plus loin possible des ischions. Entre ces trois repères, fontanelle, ischion, talon, le corps peut-il former un angle droit? Ce serait l'étirement parfait, mais il y a bien des chances que les lombes, sollicitées en étirement, refusent et que votre nuque se creuse. Lorsqu'il s'agit de grandir, on lève le visage, les yeux, peut-être parce que c'est la seule partie de la tête que l'on connaisse un peu.
je m'intéresse aux principes de base du biofeedback, science d'auto-enseignement, parce que mon travail aussi est destiné à vous permettre de vous renseigner vous-même, à vous faire prendre conscience des sensations, de la circulation d'énergie, des possibilités de mouvements inaperçus jusqu'alors. Le but ultime de mon travail est de vous faire faire l'apprentissage du bien-être, de vous faire connaître ce que c'est que d'aller bien. Personne n'était vraiment étonné. Certains étaient catastrophés. Tous éprouvaient une certaine gêne. Une danseuse a fait un corps tout en jambes. Un agrégé en philosophie a fait une grosse tête sur un tout corps socle. Un homme à la tête dans les épaules a fait un bonhomme sans cou. Un homme de très petite taille ne s'était servi que d'une pincée de pâte pour modeler un portrait miniature.
Il y a quelques années, j'ai participé à un stage de Gerda Alexander en France. J'ai beaucoup apprécié un travail préliminaire qu'elle faisait faire. À chaque stagiaire, elle a distribué une poignée de pâte à modeler. Elle nous a dit de prendre notre temps et de modeler un petit bonhomme en gardant les yeux fermés. Le travail terminé, chacun a ouvert les yeux sur son autoportrait.
À la fin du stage, Gerda Alexander nous a fait refaire le petit bonhomme, toujours les yeux fermés. Parce que nos sensations avaient été éveillées, notre existence dans l'espace affirmée et notre contact avec le sol et tout l'environnement agrandi, il n'était pas très surprenant de découvrir que nos seconds bonhommes étaient donc plus ronds, qu'ils avaient des pieds, des mains, sinon un sexe, que la tête avait des yeux, parfois même un nez et une bouche. Mais je continuais encore à être plus intéressée par les premiers autoportraits qui semblaient de bien indiquer que, quelque part en nous, nous savons comment nous sommes, alors même que nous ne savons pas que nous le savons.
En réalité, en faisant ainsi, on ne fait que se raccourcir la nuque. Encore une fois, tout se passe derrière. La pulsion du mouvement devrait venir de la colonne entière, de l'arrière du crâne. Mais il y a beaucoup de chances pour que, si vous arrivez à ériger la colonne, les jambes se tortillent et se raccourcissent. Genoux en dedans, pieds en dehors. Les genoux se soulèvent. Impossible de trouver un appui sur le sol.
Le biofeedback est donc un processus scientifique qui vous permet de vous informer de ce que vous faites en dedans par la perception d'informations que vous émettez vous-même et que vous recevez du dehors. Puisque votre corps apprend par l'expérience ou plutôt par la prise de conscience des changements qu'apporte votre expérience, le biofeedback ouvre de nouvelles possibilités de vous connaître et d'agir sur vous-même.
Si je refuse la spécialisation et si je suis devenue consciente des multiples possibilités de mes mains, d'autres thérapeutes de ma connaissance croient n'avoir à tendre qu'une seule main. Récemment, j'ai reçu plusieurs sages-femmes venues dans l'espoir d'élargir les possibilités de leur art. L'une d'elles se couchait par terre et, pendant que les autres regardaient, j'ai montré sur elles comment faciliter la respiration de leurs patientes en travaillant les trapèzes.
Toujours assis sur les ischions, fléchissez les jambes, et essayez de poser les pieds à plat sur le sol, talons au-dessous des genoux, pour ériger la colonne et la fontanelle vers le ciel, sans vous cramponner des mains aux jambes. Posez les mains au sol, paumes en l'air.
Être bipède vous paraît normal. Depuis la première année de votre existence, vous vous êtes adapté à cette position périlleuse. Mais je remarque que cette adaptation à une position dressée sur deux pieds est rarement bonne. Elle demande trop d'efforts à notre système nerveux, à notre système musculaire. Elle est excessivement coûteuse, gaspille nos forces. À la longue, elle fait souffrir et détériore nos articulations, notre squelette, tout notre organisme.
Quel est le contact des ischions au sol, de la plante des pieds ? Il est probable que les raccourcissements des muscles des lombes ne vous permettent pas cette position. Les genoux s'écartent, vous tombez en arrière, vous poussez le menton en avant, raccourcissant la nuque pour essayer de compenser l'incroyable force de résistance du dos. Vous n'avez aucun contact avec le sol, ni fesses, ni talons, lévitation bien inconfortable.
La recherche de l'élégance des formes et le respect de la structure normale du corps sont deux critères de mon travail qui ne semblent pas compter beaucoup dans celui de Feldenkrais. Intéressé par une amélioration physiologique, neurologique, mais ne se préoccupant pas de la forme du corps dans son intégralité. Il parle de structure, mais spécialiste du cerveau et non de l'anatomie, il s'agit de structures des systèmes riniques, limbiques et supralimbiques, c'est-à-dire des structures cérébrales.
Maintenant, allongez-vous sur le sol. Jambes réunies, orteils vers le ciel, les paumes des mains vers le ciel aussi, les bras touchant le corps par leur face interne. Le crâne est dans l'alignement de la colonne. Les jambes et les pieds sont dans l'alignement de la colonne. Traversant cet axe longitudinal, deux lignes perpendiculaires, celles des épaules et du bassin. Les bras sont parallèles à la colonne. Mais je ne suis pas une figure de géométrie. Protesterez-vous peut-être ?
Je parle d'un contact tangible, concret, le contact réel de son propre corps avec la Terre. Ce contact est indispensable à notre équilibre, il nous dynamise. Notre contact avec la Terre nous renvoie notre propre énergie.
Si je vous dis que l'énergie qui circule actuellement dans votre corps...
Chou-chou, le petit train, wakadou, à bon train, dring-dring, un virage, bing-bing, un aiguillage, et plein d'auto, au passage à niveau.
Vous ne pourrez pas vous en servir volontairement, et vous n'aurez aucune prise sur elle parce que vous n'en aurez pas fait l'expérience.
L'architecture de la charpente est géométrique et symétrique, et les muscles devraient vous laisser la possibilité d'étendre les membres ainsi, dans le sens de la longueur. Il est fréquent, cependant, que la rétractation des trapèzes du haut du dos ne permette pas aux bras de se rapprocher du corps. Si les jambes sont réunies, le dos se creuse davantage et les côtes se soulèvent. Pendant quelques secondes, essayez de savoir si les raccourcissements des muscles vous laissent quelque liberté de vous reposer au sol.
Si, avec électrodes et machines à l'appui, vous voyez avancer le train.
Chou-chou, le petit train, wakadou, à va bon train, dring-dring, un virage, bing-bing, un aiguillage, et plein d'auto, au passage à niveau.
Ou s'allumer la lampe. Vous aurez conscience de votre énergie qui circule sans que vous ayez à la mettre en marche et vous apprendrez à la contrôler, à l'augmenter ou à la diminuer vous-même. Aujourd'hui, dans les laboratoires universitaires et autres aux États-Unis, le biofeedback a une multitude d'applications.
Ce fut pour moi un réel bonheur de faire des connexions entre les situations de ma vie qui me semblaient auparavant contradictoires, disparates et insaisissables. Devenir témoin de ma propre cohérence, entendre à travers mon propre récit une autre histoire, structurée et inévitable, reconnaître le dessin qui sous-tend toutes mes histoires passées et toutes mes actions présentes, c'est à cette aventure-là, pourtant douloureuse et parfois terrifiante, que j'ai trouvé un réel bonheur.
Allongé sur le sol, jambes de parallèle, bras de chaque côté du corps, paume contre le sol. Essayez de sentir l'appui du crâne contre le sol, entre les oreilles. Puis, essayez de sentir comment s'appuie, ou pas, la colonne dans sa totalité. Du crâne au coccyx, à chacune des 12 vertèbres dorsales, du bas de la nuque à la taille, s'articulent deux côtes de part et d'autre. Avez-vous la sensation que le dos respire contre le sol ? Si le dos est très soulevé, il ne peut ni respirer contre le sol, ni s'y appuyer. Par ailleurs, les côtes en avant seront soulevées d'autant.
Ce bonheur était celui des retrouvailles, et celle que j'ai retrouvée n'était autre, bien sûr, que moi-même. Pourquoi retrouvailles plutôt que trouvailles ? Parce que je n'ai découvert que ce que je savais déjà, mais ne savais pas que je savais. C'est-à-dire que mon savoir inconscient est devenu conscient. J'ai pu rendre à ma conscience ce qui avait été à elle, et refoulée, occultée, oubliée, ne l'était plus. Mais comment une telle opération a-t-elle pu s'effectuer ? Comment ai-je pu entendre une histoire autre que celle que, séance après séance, je racontais ?
Cette forme parfaite est inhabituelle à nos yeux. L'été, les murs de la ville se couvrent d'affiches de bronzés souriants, exhibant un thorax déformé, visiblement bloqué en respiration. Mais s'imagine-t-on qu'il soit possible de mouvoir les côtes ? Je ne veux pas dire inspirer plus fort, de façon plus ample, car le blocage est toujours en inspiration. Je ne veux pas dire retenir l'air déjà inspiré, comme on retient ses larmes ou ses cris. Je veux dire mouvoir la poitrine en l'abaissant.
Comment ai-je pu entendre une histoire autre à travers les mots parfois sans cohérence évidente, sans valeur anecdotique, à travers des bribes de rêves, des lapsus, des échappées inattendues et inentendues? J'ai pu entendre parce que je parlais à haute voix et parce que j'étais écoutée, et cela d'une manière particulière. Celle qui m'écoutait était attentive aux mots plus qu'à l'histoire qu'ils décrivaient, aux mots que je prononçais sans me rendre compte de leur portée, à l'au-delà et à l'en-deçà de mes mots. Elle écoutait ce que je disais sans le savoir, et elle écoutait ce que je ne disais pas.
Je lui demande de se coucher par terre à plat dos, ce qu'elle fait, mais un peu de biais. Je m'amaise à genoux, prends ses chevilles dans mes mains et tire sur ses jambes pour aligner son corps. Eliane se met à frémir, un petit jappement étranglé s'échappe de sa bouche. Surprise, je lui demande si je lui fais mal. Pendant toute la séance, qui durera 1h30, chaque fois que je pose la main sur elle, même si c'est pour appuyer sur un point qui ne peut être douloureux, Eliane émet comme malgré elle ce petit bruit de bonheur.
Je remarque que certains, habitués à un effort démesuré pour conserver la contracture de leur dos, sont effrayés de contracter le diaphragme ou le ventre pour expirer. Ils sont programmés de telle sorte que contracter à l'envers des habitudes les déconcerte. « Mais je suis venu me détendre, » disent-ils, ignorant que la détente, l'allongement plutôt, de l'arrière du corps peut amener une contraction intense et bénéfique de l'avant du corps.
Cela paraît bien anodin et peut-être l'être si le thérapeute confond non-directivité avec passivité, avec indifférence ou avec incertitude, s'il porte tout son respect sur la personne telle qu'elle est plutôt que telle qu'elle pourrait être. Malheureusement, beaucoup de non-directifs n'ont pas une claire vision de cette notion-là. Leur non-directivité devient un écran derrière lequel ils se protègent eux-mêmes, derrière lequel ils cachent leur ignorance, sous prétexte de protéger les droits de leurs patients qu'ils bercent, maternent, soutiennent et maintiennent au point mort.
Je vous propose maintenant de vous coucher par terre, les jambes allongées, et de glisser une bille dans la partie droite du dos, entre la colonne et l'omoplate, vers le milieu de l'omoplate. L'omoplate est une partie du dos mal connue. Son angle inférieur est plus bas qu'on ne le croit généralement. Si le dos est douloureux, vous pouvez commencer ce préalable les jambes fléchies, talons au-dessous des genoux, et n'allonger les jambes que par la suite. Vous pourrez ensuite vous servir d'une noix plutôt que d'une bille.
Les meilleurs non-directifs que je connais sont animés par le désir fervent que leurs patients se trouvent. Ils arrivent à se mettre dans leur peau sans pour autant envahir leur territoire. Délicat travail, effectivement. Ils deviennent l'allié de la partie du sujet qui veut se trouver, car derrière leur peur, la résistance, il y a, la plupart du temps en tout cas, une partie qui veut vivre autrement. Et c'est cette partie-là, celle qui cherche la lumière, que le thérapeute seconde. Si tout le jeu du sujet est de rester dans une semi-obscurité, de perdre de vue le but du travail, de fuir le changement qu'il craint autant qu'il désire, le thérapeute non directif doit cependant voir avec une parfaite clarté le but vers lequel le sujet pourrait tendre.
Une fois installé, vous découvrirez votre inconfort, qui sera à la mesure des contractures des muscles spinaux. Toutefois, essayez de sentir que vous pouvez faire le chemin inverse et les défaire.
Le corps parfait est tout simplement le corps symétrique. Il a une symétrie verticale, horizontale et cubique. La tête ne se porte pas en avant ou en arrière, ni à droite ni à gauche, elle est au milieu. Un œil n'est pas plus à que l'autre, un côté de la mâchoire non plus. Les épaules sont horizontales, une clavicule n'est pas plus enfoncée que l'autre, ni à un niveau différent. Le sternum n'est ni en dedans ni protubérant.
Posez largement tout ce qui peut s'appuyer sur le sol, loin de la bille. Les talons, les mollets, les fesses, les mains, les coudes, les bras, la tête. Roulez doucement la tête vers la droite, en essayant de trouver l'appui entre les oreilles. Chaque fois que vous roulez la tête, essayez de poser l'oreille droite. Laissez la bouche ouverte et soufflez par la bouche, sans rétrécir les lèvres, sans bruit.
L'effort pour expirer ne se fait pas au niveau des lèvres, mais plus profond, dans le diaphragme, les muscles intercostaux, le ventre.